VOA Afrique, les infos à Washington.
Avec vous, Henri Francisque, midi à Abidjan, 13h à Kinshasa. Bienvenue à notre journal. Côte d'Ivoire, Hubert Houlaye, un ancien ministre ivoirien du régime de Laurent Gbagbo, et son co-accusé Maurice Djiré sont jugés depuis hier à la cour d'assises d'Abidjan. L'ex-ministre est inculpé de complicité d'assassinat dans le cadre de la mort de 7 casques bleus et 8 civils en 2012. Le point avec Solange Nyamulisa.
Ancien ministre de la fonction publique et porte-parole du gouvernement de l'ex-président Laurent Gbagbo dans les années 2000, M. Houlaye, 64 ans, a fait 2 ans de détention préventive entre mai 2015 et juin 2017, était présent au palais de justice. Il lui est reproché d'avoir fourni, via des intermédiaires, 2 millions de francs CFA pour acheter des armes qui vont servir à perpétrer des attaques. 7 casques bleus nigériens et 8 civils avaient été tués dans une attaque en juin 2012, non loin de Guiglo, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, dont est originaire l'accusé. Maître Toussaint Dako, l'un de ses avocats, a dénoncé un procès politique et un dossier vide. La première journée d'audience a été consacrée au co-accusé, Maurice Djiré, qui s'est présenté sans avocat. Il a affirmé devant la cour avoir été torturé lors de ses interrogatoires par la police. Par ailleurs, seul un témoin sur les 5 cités par l'accusation était présent.
République démocratique du Congo, 4 personnes sont mortes et 5 ont été blessées lundi soir dans le déraillement d'un train de transport de marchandises dans le centre du pays. L'accident a eu lieu à Bena Kadjeboué, un village situé à 65 km au nord de Kananga, chef-lieu de la province du Kasaï central. Le bilan est encore provisoire car les wagons du train se trouvent encore sur la voie ce mardi matin, a déclaré à l'AFP François Moutamboué, responsable de la Société nationale de chemin de fer du Congo à Kananga. L'ensablement du réseau ferroviaire est à l'origine de l'accident, selon M. Moutamboué. Cameroun, 4 gendarmes ont été tués lundi dans l'ouest anglophone du pays lors d'une attaque de séparatistes présumés. C'est ce qu'a annoncé le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, Issa Tchiroma Bakari. Ce nouvel incident porte à 15 en moins de 2 mois le nombre de membres des forces de sécurité camerounaises qui ont été tués en zone anglophone. Soudan du Sud, les rebelles sud-soudanais accusent les troupes gouvernementales d'avoir attaqué une de leurs bases à quelques heures de la reprise des négociations de paix à Addis Abeba en Éthiopie. Jacques Aricide nous en dit plus.
L'un des porte-parole des rebelles, Lampol Gabriel, a précisé que l'attaque a eu lieu dans la nuit de dimanche à lundi dans la ville de Lassou, dans le sud du pays. D'après lui, les soldats ont pris position dans la base du mouvement rebelle IO. Pour sa part, un porte-parole de l'armée a déclaré que 4 travailleurs humanitaires de l'association française Solidarité Internationale avaient été enlevés dimanche par des rebelles près de la ville de Raja, dans l'ouest du pays. L'ONG a dit être sans nouvelles de 3 de ses employés depuis samedi. Les pourparlers de paix dans la capitale éthiopienne se déroulent sous les auspices de l'IGAD, bloc regroupant 8 pays de la région, et visent à ramener les factions rivales à la table des négociations. La guerre civile sud-soudanaise a fait des dizaines de milliers de morts depuis 2013. Le conflit a été déclenché par la rivalité entre le président Salva Kiir et son ancien adjoint Riek Machar, qui vit hors du pays.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Actualité aux États-Unis maintenant. Le président américain Donald Trump a prononcé lundi à Washington un discours sur la stratégie des États-Unis en matière de sécurité nationale. Raissa Girondin a joint Emilio Viano, professeur de sciences politiques à American University, ici à Washington, pour discuter de ce discours.
Il n'y a rien de nouveau dans le sens de ce qu'il a déjà dit pendant cette année de sa présidence. Il a critiqué certains pays, par exemple, a mis un accent particulier sur les puissances révisionnistes de la Russie et de la Chine, révisionnistes dans le sens d'une nation qui essaie de changer le status quo mondial.
Le président, il a déclaré que la meilleure arme dont nous disposons, c'est la force de notre PIB. Un commentaire sur cette déclaration?
C'est clair, ça, dans le sens qu'il a critiqué les anciens dirigeants comme des interventionnistes qui gaspillaient l'argent des contribuables et négligeaient les besoins des Américains chez eux. C'est-à-dire que le président souligne toujours, comme on dit, America first, c'est-à-dire un nationalisme très important, un populisme, et resserrer presque les frontières pour se distancier des accords internationaux et affirmer les intérêts nationaux particuliers.
En parlant de frontières, qu'avez-vous retenu de son discours sur la question de l'immigration?
Il n'y avait pas beaucoup que j'ai vu sur l'immigration, mais nous savons que le président a une vision négative de l'immigration traditionnelle historique qui a créé les États-Unis. C'est-à-dire qu'il pense plus à une immigration sélective de gens qui ont déjà des degrés universitaires, des habiletés techniques, qui peuvent arriver ici pour son mérite. Parce que nous avons une immigration très forte, particulièrement en Amérique latine, du Mexique, de l'Amérique centrale et d'autres pays, même l'Afrique naturellement, des gens qui ont une très grande volonté de travailler et de travailler dans des emplois que les Américains ne veulent pas et qui sont essentiels pour le fonctionnement de l'économie nationale. C'est ça que le président rejette et, à mon opinion, naturellement, c'est une erreur formidable parce qu'il joue un rôle très important dans l'économie et dans le niveau de vie des Américains.
Emilio Viano, professeur de sciences politiques à American University, ici à Washington. Le Kremlin a dénoncé ce mardi le caractère impérialiste du rapport sur la stratégie de sécurité nationale publié la veille par les États-Unis, en accusant Washington de s'accrocher à un monde unipolaire. Le caractère impérialiste de ce document est évident, tout comme le refus de renoncer à ce monde entier. Unipolaire, a déclaré à la presse le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, en soulignant que les autorités russes ne peuvent pas accepter qu'on traite leur pays comme une menace à la sécurité des États-Unis. Pékin dénonce également une mentalité de guerre froide ici aux États-Unis. Crise migratoire. Depuis janvier, plus de 118 000 migrants ont rejoint l'Europe et 3 000 ont péri en Méditerranée. Pour faire le point, et qui Abadou a joint à Dakar Florence Kim du bureau de l'OIM, l'Organisation internationale pour les migrations.
Avec les récents rapports qui sont sortis dans les médias, le public a pu découvrir qu'il y avait des dizaines de milliers de personnes qui croupissaient dans des centres de rétention en Libye, par exemple, qui n'étaient pas nécessairement contrôlés par les autorités libyennes elles-mêmes. Et nous avons procédé au rapatriement de plus de 15 000 personnes qui étaient en Libye et nous avons secouru plus de 2 000 personnes dans le désert du Niger, qui bien évidemment est encore plus meurtrier que la Méditerranée elle-même.
Est-ce que vous êtes optimiste pour les mois à venir, pour l'évacuation et le démantèlement des différents centres de rétention en Libye?
Ce n'est pas simplement qu'une position, c'est qu'on le voit par les chiffres. Il y a plus de 15 000 personnes qui ont pu être rapatriées et nous comptons en rapatrier à leur demande plus de 15 000 encore entre aujourd'hui et février. Ça nécessite une grande logistique et aussi du côté administratif. Donc, bien évidemment que là, il y a pas un courage politique, mais une volonté politique de travailler ensemble avec l'Union européenne, l'Union africaine, ainsi que la Libye, pour mettre fin à ces abus et ces violations des droits de l'homme qui sont honteuses.
Florence Kim, du bureau de l'OIM à Dakar. Et puis en Iran, les écoles sont restées fermées dans la province de Téhéran pour la troisième journée consécutive en raison d'une pollution atmosphérique très élevée. Plus de détails avec Abdourahman Dia.
Limitée aux écoles primaires dimanche, la mesure a été étendue hier à tous les établissements scolaires de la province de Téhéran, à l'exception de trois petites villes moins polluées. Les restrictions à la circulation imposées lundi ont été prolongées. Seules les voitures avec un numéro impair ont le droit de rouler. L'interdiction faite aux camions de circuler a été étendue jusqu'à demain. Les mines et les cimenteries fermées depuis dimanche devront rester fermées ce mardi. L'annulation de toutes les compétitions sportives est prolongée de 24 heures. La pollution de Téhéran, habituée à des embouteillages monstres, est aussi provoquée à 80% par les gaz émis par les pots d'échappement. Un nuage épais enveloppe la ville. À cette période de l'année, la pollution atteint des pics. La ville de Téhéran est située à plus de 1400 mètres d'altitude. L'air froid empêche l'air chaud et pollué de se dégager et l'absence de pluie renforce le problème.
Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.